Merci Madame la Présidente. Alors, merci également à Benjamin Defort m'avoir invité, de m'avoir sorti de Paris et permis d'exercer mon regard croisé que je pratique tous les jours, comme tous les avocats au Conseil, puisque nous sommes avocats au Conseil d'État à la Cour de cassation, donc procédure civile, procédure administrative et également procédure pénale. Maintenant, merci de parler en fin de journée. C'est difficile parce que coincé avec les horaires de train et la difficulté du sujet, alors il fallait que je me creuse la tête. Donc je me suis creusé la tête et je vais essayer de faire bref et pour vous faire part des quelques réflexions. Alors du haut de la Cour de cassation, les réflexions sont assez... et du Conseil d'État, bien sûr. Les réflexions, elles portent sur trois points. Il me semble d'abord que il y a une influence des juridictions suprêmes, même sur les procédures, sur la façon de concevoir les procédures. Ensuite, il me semble que de temps en temps, le juge de cassation peut devenir juge d'appel. Et puis on a même vu dans des projets de réforme des juges d'appel devenir juge de cassation. Alors je vais reprendre un peu rapidement ces trois points. D'abord, l'influence du recours en cassation sur l'appel. Je vais limiter mon propos à la matière judiciaire. Parce que, comme on vous l'a expliqué, en matière administrative, c'est très hiérarchisé. Il y a le Conseil d'État, les cours administratives et les tribunaux administratifs. Bon, je ne suis pas tout à fait d'accord avec l'explication sociologique qui a été donnée tout à l'heure. Je crois que le Conseil d'État est une juridiction elle-même très ordonnée. Il n'y a pas de divergence de jurisprudence au sein du Conseil d'État. Tout est fait pour qu'il n'y ait pas de divergence de jurisprudence. Et... c'est pareil ensuite. On applique la jurisprudence. C'est une question d'ordre. Il n'y a pas de culture de résistance non plus, comme il y a peut-être un peu plus devant les juridictions judiciaires. Hein, les cours d'appel se plaisent à résister à la Cour de cassation. C'est pas le cas. C'est beaucoup moins le cas en tous les cas devant les juridictions administratives. Alors devant les juridictions judiciaires, il me semble qu'un certain nombre de règles du pourvoi en cassation ont été transposées ou en tous les cas à l'appel ou en tous les cas ont inspiré la procédure d'appel. Alors je prends un exemple très concret, récent, celui de la radiation du rôle. La radiation du rôle, ça existait d'abord devant la Cour de cassation. C'est l'œuvre du premier président Drey, qui, en 1989, avait instauré ce qu'on appelait alors le retrait du rôle. Il s'agissait, je me souviens de la chronique du président Chauvin, exécuter les décisions des juges du fond. Il fallait exécuter les juges du fond avant de venir devant la Cour de cassation. Et on voyait là certainement un mécanisme qui permettait d'évacuer un certain nombre de pourvois qui étaient jugés dilatoires. Je ne suis pas convaincu de l'efficacité de ce mécanisme. Si on regarde les statistiques de la Cour de cassation, ça concerne en réalité assez peu d'affaires. Ça monopolise tous les jeudis un magistrat, des avocats, avec un résultat qui est assez peu probant. Bon. Toujours est-il que le décret du 28 décembre 2005, qui a voulu renforcer les décisions de première instance, a décidé de transposer ce mécanisme. Et on sait que lorsque l'exécution provisoire est ordonnée, elle l'est très souvent maintenant, l'intimé peut demander, en cas d'inexécution, la radiation du rôle de l'affaire. Et on a tout transposé, puisque l'article 526 du Code de procédure civile prévoit donc les mêmes règles que pour le pourvoi en cassation, les mêmes exceptions. Vous échapperez à la radiation du rôle si vous êtes l'appelant, si vous arrivez à démontrer que vous êtes dans l'impossibilité totale d'exécuter. Par exemple, vous êtes en redressement judiciaire ou en liquidation des biens. Ou si vous démontrez que l'exécution aurait pour vous des conséquences manifestement excessives. Et on aboutit aussi aux mêmes conséquences avec ce qui fait bondir les processualistes, ce mécanisme de la péremption d'instance, puisque nous voilà dans une procédure avec une règle de péremption d'instance qu'on ne peut pas interrompre par des actes de procédure. Bon, écoutez, ça a été transposé et je ne sais pas si ça marche, mais en tous les cas, c'est d'actualité dans la Cour d'appel. Alors il y a d'autres exemples qu'on pourrait donner, par exemple en matière prud'homale. Devant la Cour de cassation, pendant de nombreuses années, cette matière, qui est quand même très importante, dans cette matière, la représentation des parties par un avocat au Conseil d'État à la Cour de cassation n'était pas obligatoire. Les parties pouvaient se présenter elles-mêmes ou par un mandataire, et elles pouvaient présenter leur mémoire, parce que tout de même, la procédure devant la Cour de cassation était écrite. Elle l'est toujours. Mais elle n'est pas simplement qu'écrite, la procédure devant la Cour de cassation, elle est aussi très technique. Et on s'est aperçu que cette facilité qu'on donnait aux plaideurs, en disant « bon, il faut que le simple salarié, on pensait à lui, puisse se présenter », cette facilité n'était pas forcément un cadeau. Et on s'est aperçu notamment que, en matière prud'homale, c'est là où il y avait le nombre d'irrecevabilités les plus nombreuses et le taux de cassation le moins important. Donc finalement, à la demande même de certains syndicats, et à la demande de la Cour surtout, la procédure par avocat a été étendue dans pratiquement toutes les matières. Il y a que quelques matières très résiduelles aujourd'hui dans lesquelles la représentation ne se fait pas par un avocat. Et on aboutit d'ailleurs aujourd'hui à des taux de cassation qui sont remontés. Ça a entraîné une baisse aussi temporaire dans les premières années du contentieux qui est remonté, mais tout simplement parce que devant les cours d'appel, le contentieux prud'homal a aussi augmenté. Alors, eh bien, la Cour d'appel a copié la Cour de cassation. Bien sûr, la procédure était orale, ce qui n'est pas la même chose. Et on ne peut pas dire que l'oralité de la procédure, qui avait certains inconvénients, on ne peut pas dire que ça constituait une entrave à l'accès à la Cour d'appel. En tous les cas, plusieurs rapports, plusieurs voix se sont fait entendre pour que la procédure soit écrite devant la Cour d'appel et qu'elle donne lieu à une représentation obligatoire. Et c'est avec le rapport Lacabaratz que cette mesure est intervenue. Il faut tout de même rappeler, pour comprendre peut-être pourquoi cette mesure a été étendue, qu'en matière prud'homale, le taux d'appel était de 65%. 65%, c'est énorme. Je pense qu'avec la représentation obligatoire et le caractère écrit de la procédure, on va... Alors, je mets à part le défenseur syndical, mais je pense que ça sera assez marginal. On va aboutir certainement à une baisse du contentieux. Baisse du contentieux que les lois récentes vont aussi, mais ça, on aura les résultats dans quelques années. Hein. Voilà, il y a d'autres mesures qui me paraissent avoir été inspirées de la procédure de cassation. Sans rentrer dans le détail, il me semble que le caractère contraignant des délais pour déposer les conclusions ou les mémoires, c'est directement inspiré de la procédure de cassation. Pendant longtemps, devant la Cour de cassation, je parle d'un temps immémorial, que les plus de 60 ans n'ont pas connu, on pouvait déposer des mémoires sans délai. Puis un jour, la Cour de cassation, on a eu assez de ce désordre. Et vous avez des textes qui, aujourd'hui, prévoient que le demandeur doit déposer son mémoire dans les 4 mois. Mais alors attention, il doit déposer son mémoire dans les 4 mois, mais il peut en déposer d'autres, mais il ne pourra pas développer d'autres moyens de cassation. C'est quand même très important, c'est très, très difficile. Donc, vous voyez, 4 mois, vous devez avoir complètement étudié le dossier et présenté vos moyens. Le défendeur, lui, a 2 mois pour présenter ce que le code appelle le mémoire en réponse et pour éventuellement faire un pourvoi incident. Et après, c'est terminé. Devant la Cour d'appel, petit à petit, on s'oriente vers cette voie. En tous les cas, il y a des délais pour conclure, et des délais qui sont de plus en plus stricts. Les praticiens le savent, ils en souffrent. Et des délais qui sont assortis de sanctions, et de sanctions un peu irrémédiables, hein, caducité, déchéance. Il me semble que, plus qu'une cristallisation de la procédure, c'est un durcissement. La procédure devient de plus en plus formaliste, et c'est assez copié, me semble-t-il, de la Cour de cassation. Alors, on peut même pousser la comparaison un peu plus loin, puisqu'on vous l'a rappelé, le législateur a voulu que l'objet de l'appel tende clairement à la critique du jugement qui a été rendu. Hein, on est d'abord en appel pour face à un jugement qu'il faut critiquer, et on a modifié les textes. L'article 542 du Code de procédure civile, qu'on a lu ce matin, l'appel tend par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré à sa réformation ou à son annulation par la Cour d'appel. Le parallèle avec le pourvoi en cassation revient vite. Hein. Le pourvoi en cassation, c'est ce qu'on dit traditionnellement, c'est un procès fait à un jugement. Eh bien, l'appel, c'est le procès de la décision première instance. Alors, il ne faut pas pousser, évidemment, et fort heureusement, trop loin le parallèle, parce que 561 du Code de procédure civile nous dit que l'appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d'appel pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit. Et les parties peuvent toujours invoquer devant la Cour d'appel des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves, ce qui est évidemment impossible devant le juge de cassation. Mais ce qui est certain, c'est que dans les années à venir, l'appel sera de plus en plus une voie de réexamen, plus qu'une voie d'achèvement, et surtout que son accès sera encore, je pense, je le crains en tous les cas, limité et rendu plus difficile. Alors, deuxième point de mon propos, le juge de cassation, juge d'appel. Alors, le juge de cassation, juge d'appel, on pense immédiatement au Conseil d'État, puisque depuis la loi du 31 décembre 1987, le Conseil d'État peut, après cassation, régler l'affaire au fond, si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie. C'est un dispositif quand même assez particulier qui va complètement à l'encontre de l'interdiction qui est faite aux juges de cassation judiciaire de connaître du fond des litiges. Mais le Conseil d'État, c'est son histoire, a d'abord été juge de premier et dernier sort, puis juge également d'appel. Donc il connaît l'appel et ça ne lui a pas paru difficile, après une cassation, d'enlever sa casquette de juge de cassation, de mettre sa casquette de juge d'appel et de régler l'affaire au fond. Alors on vous a dit que c'était fréquent. Ça a été fréquent. Ça a été peut-être pas la règle, mais presque, pendant quelques années. Aujourd'hui, il me semble que c'est devenu un peu exceptionnel. Il y a là certainement des politiques de bonne administration. Quand les cours administratives étaient sous l'eau, eh bien, on leur prenait quelques affaires. Aujourd'hui, les cours flottent, notamment à Nantes, si j'ai bien compris. Donc les cours n'ont pas de difficultés et on va régler, le Conseil d'État réglera au fond lorsque véritablement il y aura une nécessité de régler rapidement l'affaire. Il faut que les parties, elles sont invitées à le faire, il faut que les parties le fassent valoir. Ce qui nous pose d'ailleurs des difficultés, parce que c'est très difficile quand vous instruisez une affaire de vous adresser au juge de cassation et de vous projeter déjà dans le règlement de l'affaire au fond. Alors, devant la Cour de cassation, évidemment, pendant très longtemps, le principe, c'était que le juge de cassation avait interdiction de connaître du fond des litiges. Et cette interdiction, elle subsiste toujours. Elle figure dans l'article L411-2 du Code de l'organisation judiciaire. La Cour de cassation ne connaît pas du fond des affaires, sauf disposition législative contraire. Et sauf disposition législative contraire, bien, il y en a une petite qui est arrivée dans la loi de modernisation de la justice, qui est arrivée par un petit amendement, on ne sait pas comment il est sorti, mais enfin, il est arrivé là. Et on vous dit aujourd'hui, à l'article L411-3, au deuxième alinéa du Code de l'organisation judiciaire, la Cour de cassation peut aussi, en matière civile, statuer au fond lorsque l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie. Une véritable révolution. La Cour de cassation, qui ne doit pas connaître du fond des affaires, qui n'en connaît pas, qui n'a pas de dossier, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, la Cour de cassation, elle statue sans dossier. Elle statue par les dossiers que les parties veulent bien constituer, la décision de première instance, évidemment l'arrêt d'appel, les conclusions que les parties ont pu échanger en appel, elles sont produites, quelques pièces essentielles, et c'est tout. Elle n'a plus les dossiers, alors elle va les avoir de plus en plus, mais l'idée à la Cour de cassation, c'est qu'on ne se plonge pas dans le dossier, on fait du droit. Hein, donc on ne va pas regarder le dossier, contrairement au Conseil d'État qui, lui, passe son temps, lui, dans les dossiers. Il fait du droit en même temps, bien sûr. Ça va de soi. Il fait le droit, même. La Cour de cassation a cette nouvelle possibilité. Ça a été voté, comme je vous l'ai dit, par un amendement qui a été glissé au dernier moment. Je ne suis pas sûr qu'il y ait eu une véritable étude d'impact sur ce que cette disposition pouvait engendrer. Et dans les faits, j'ai été faire une petite recherche sur Légifrance. J'ai trouvé deux arrêts de la Chambre sociale et un arrêt de la première Chambre civile. Et le règlement, c'était pas très difficile. Alors évidemment, dans ce cas-là, donc on envisage de casser dans une affaire. On indique aux parties, on envoie un avis que la Cour va peut-être régler au fond. Donc on les invite quand même à développer. Alors là, c'est branle-bas de combat pour les avocats, hein, parce que il faut ressortir le dossier, il faut se plonger dedans. Bon, en réalité, c'est quand, par la décision de cassation, il n'y a plus grand-chose. On n'est pas très loin de la cassation sans renvoi. Je parle sous le contrôle de la deuxième chambre civile, mais ça ne se pratique pas. Alors ça va peut-être se développer. Moi, j'en doute, parce que je ne pense pas que ça soit ni dans la culture, ni dans l'intérêt de la Cour de cassation. Là aussi, ça va permettre certainement, dans certains cas, de mettre fin à une procédure. Ça ne demande pas grand-chose comme effort de régler, dans certains cas très particuliers. Et on ne renverra pas, donc on évitera un renvoi. Troisième propos, le juge d'appel, juge de cassation. Alors là, c'est carrément révolutionnaire. C'est révolutionnaire, mais je crois que c'est de l'histoire. Je m'explique. Dans le projet de réforme de la Cour de cassation, qui est porté par le premier président Louvel, une idée assez originale avait été avancée. Il était suggéré d'exfiltrer en quelque sorte le contentieux disciplinaire et de conférer aux cours d'appel elles-mêmes le contrôle de la régularité de leurs décisions. Alors ça peut être un peu plus subtil que ça. Hein. Ça peut être des autorisations de faire un pourvoi. Certains ont dit on va faire des cours d'appel, des mini-cours de cassation qui seront chargés en quelque sorte de faire un filtrage externe des pourvois. Bon, et c'est Paul Cassia, pour ne pas le désigner, qui n'est pas très favorable, d'après ce que j'ai compris, à ce projet. Puis je partage un peu son avis. En tous les cas, le projet était allé assez loin, puisqu'il était prévu qu'il devait faire l'objet d'une expérimentation, précédée là d'une étude d'impact, et l'expérimentation pourrait être faite dans 3 cours d'appel pendant 3 ans. Bon, cette idée a fait long feu. Elle a fait long feu d'abord parce qu'elle a été très critiquée. Un partage de compétences entre la Cour de cassation et les cours d'appel pour connaître des griefs disciplinaires aurait certainement eu pour conséquence ce qu'on voulait éviter, c'est-à-dire une augmentation du nombre des recours, hein, puisque celui qui voudrait invoquer contre une même décision, et c'est fréquent, une violation de la loi, d'abord directement dans la Cour de cassation, mais également un vice de motivation, il fallait d'abord savoir ce que c'était, où vont placer la barre sur les vices de motivation, il aurait été saisi de la Cour d'appel, qui aurait donné une autorisation, pas une autorisation, parce qu'elle faisait déjà 2 recours, éventuellement un 3e recours contre la décision de la Cour d'appel. Bon, ajouter à cela qu'on a un petit peu l'impression que la Cour d'appel aurait été juge et partie, hein, il s'agit de savoir si j'ai suffisamment motivé ma décision, ma cour d'appel, si je l'ai rendue dans une composition régulière, si... je ne sais pas si c'est au cours d'appel de se prononcer. Enfin, l'argument qui a certainement emporté l'abandon et l'enterrement de ce projet, c'est l'argument pratique. Recharger les cours d'appel qui sont complètement encombrés de nouvelles tâches, ça a paru, je crois... Les premiers présidents... Au début, ont été très prudents. Ils ont dit qu'il fallait réfléchir, qu'il fallait faire une réflexion d'ensemble sur tous les recours. Bon, en réalité, imaginez qu'à Paris, dans les chambres sociales, vous avez 30 000 dossiers en attente. Vous avez quand même 13 chambres sociales. Vous allez demander à tous ces magistrats qui sont complètement débordés et qui sont menés à un train d'enfer de, en plus, statuer sur la régularité de leurs propres décisions. Je crois que... Bon. Donc ce projet ne figure plus, n'est plus d'actualité. Il y en a d'autres dont on pourrait débattre, mais ailleurs, et pas aujourd'hui. Mais ce projet a donc été enterré. Alors en conclusion, je crois que ce sont 2 voies de recours qui restent quand même intimement liées. Et il faudra voir si dans les années à venir, l'objet et la finalité de ces 2 voies de recours vont radicalement changer. Je ne le sais pas, l'avenir nous le dira. Je vous remercie de votre attention.
Je suis là, merci. Voilà. Merci, monsieur Defour, de m'avoir invité à ce colloque. Alors, moi, ça ne me fait pas sortir de Paris, puisque j'ai l'habitude de venir à Tours, mais ça me fait toujours très plaisir d'y revenir. d'y revenir pour justement cette question très intéressante de la comparaison de la pratique, hein, un petit peu de l'office des juges suprêmes sur l'appel. Alors, bien sûr, c'est un sujet qui demande un petit peu de précision, de délimitation, parce que les juridictions suprêmes et l'appel, bon, du point de vue du Conseil d'État, juridiction suprême, évidemment, il y a deux exceptions. Hein, ça peut être la juridiction de cassation sur l'appel, mais évidemment qui ne concerne pas uniquement l'appel. Et puis ça peut être aussi le Conseil d'État est lui-même juge d'appel. Alors, pas seulement après cassation, mais il a un rôle de juge d'appel ordinaire, direct, hein, mais c'est très marginal. Ce sont les élections municipales et départementales. C'est le référé liberté. Comme évidemment, cette compétence n'existe pas pour la Cour de cassation, je n'en parlerai pas ici. Donc, je vais plutôt me concentrer sur la manière dont le Conseil d'État juge de cassation contrôle les juridictions d'appel. Mais c'est vrai qu'on voit bien vu aujourd'hui, avec le développement des tribunaux administratifs statuant en premier et dernier ressort, que finalement, il exerce de la même façon. Hein, moi, je me suis posé la question un petit peu au début. Je me suis dit, est-ce qu'il y a une différence de regard du Conseil d'État quand il est saisi d'un jugement rendu en premier et dernier ressort ou d'un arrêt de cour d'appel? Mais en fait, bon, voilà, je n'ai pas fait une étude approfondie, qui serait d'ailleurs assez difficile à faire, mais en tout cas, de ma pratique au Conseil d'État, j'en ai absolument pas vu de traces ou de différences. Hein, donc c'était le seul point sur lequel il y en a, c'est évidemment quand Conseil d'État, juge de cassation, se penche sur une technique d'appel. Est-ce que le juge d'appel a bien utilisé certaines techniques qui sont vraiment propres à l'appel? C'est notamment la différence entre l'effet dévolutif et l'évocation. J'en dirai un mot. Mais sinon, l'essentiel, on a vu de la question de la juridiction suprême par rapport à l'appel, c'est aujourd'hui un petit peu pareil que si ce n'est pas d'appel, c'est au fond quel est l'office du juge de cassation et comment il l'exerce. Alors, c'est ce que je vais essayer de traiter. Alors, il y a beaucoup de choses. Je vais essayer de traiter celles qui me paraissent les plus intéressantes et qui peuvent m'inviter à une comparaison, notamment particulièrement avec ce que fait la Cour de cassation. L'une des différences notables et qui explique peut-être des différences dans l'office du juge de cassation, puisque ça revient un petit peu à ça finalement, c'est le caractère relativement récent, hein, de la cassation pour le Conseil d'État. Alors, le Conseil d'État était juge de cassation depuis longtemps des juridictions administratives spécialisées, mais c'était très marginal. Il a véritablement acquis cette fonction avec la création des cours administratives d'appel, hein, par la loi du 31 décembre 1987, avec une montée en puissance progressive jusqu'en 1995, hein, pour l'essentiel du contentieux, même 10 ans plus tard pour certains contentieux particuliers. Donc effectivement, le Conseil d'État était traditionnellement un juge d'appel. Il était un juge d'appel et il est devenu assez récemment un juge de cassation. Ça explique peut-être le fait, comme l'a dit Maître Hazan, qu'il n'est pas de mal, hein, à se remettre dans la peau du juge d'appel après cassation. Alors, c'est ces deux questions, ces deux volets que je vais voir. Hein. D'abord, le juge d'appel, le Conseil d'État juge de l'appel, donc un petit peu plus l'office du juge de cassation. Et ensuite, le Conseil d'État juge d'appel et comment il exerce cette pratique du règlement au fond, dans quel cas il l'exerce et comment il l'exerce. Alors, le Conseil d'État juge de l'appel, donc c'est, je vous l'ai dit, l'office, un petit peu l'office, le plus souvent l'office du juge de cassation aujourd'hui. Il s'est développé à propos d'arrêts d'appel, mais aujourd'hui il s'exerce pour une bonne partie de contentieux à propos sur des jugements de tribunaux administratifs en premier et dernier ressort. Alors, il y a deux particularités. D'une part, il y a le fait que les pourvois en cassation sont filtrés. Alors, ça, c'est un point commun avec la Cour de cassation. Alors, une procédure de filtrage qui vise à ne permettre d'admettre que les pourvois qui sont recevables et qui présentent au moins un moyen sérieux. Alors, la procédure d'admission des pourvois en cassation est une procédure juridictionnelle, mais sans instruction contradictoire. C'est-à-dire que l'admission est décidée au seul vu du mémoire introductif d'instance et du mémoire ampliatif. Il n'y a pas de contradictoire, ce n'est pas transmis au défendeur potentiel. Après avoir été organisé par une formation spécialisée au sein du Conseil d'État qui statuait sur l'admission, aujourd'hui c'est décentralisé, c'est-à-dire que chaque chambre traite de l'admission des pourvois qui relèvent de sa matière, avec une décision juridictionnelle qui est prise après une procédure, donc je vous disais non contradictoire, mais collégiale, avec une audience et audition des conclusions du rapporteur public. Donc il peut y avoir quand même, le demandeur, le requérant, peut venir défendre l'admission de son pourvoi. Bon, je passe sur les quelques cas où on peut non admettre par ordonnance. Alors, un petit peu la pratique, c'est ça qui est intéressant, hein, l'office la pratique de cette admission. Alors bien sûr, on admet finalement dans deux cas, bon, lorsqu'il y a un moyen sérieux. Il faut dire que parfois, le Conseil d'État a un petit peu de marge de manœuvre quand même. Il peut y avoir des moyens sérieux, c'est-à-dire des moyens qui sont de nature à entraîner la cassation de l'arrêt, mais dont on voit bien que, en réalité, au fond, ça n'aboutirait absolument à rien. Hein, c'est-à-dire une purement formelle, par exemple. Bon, il y a eu un défaut de réponse à un moyen. Motivation qui nous paraît un peu insuffisante. Bon, on pourrait peut-être admettre pour ça, mais qu'est-ce qui se passerait après si de toute façon il apparaît évidemment que le moyen n'est pas fondé ou que la solution s'impose sur le fond. Bon. Alors ça c'est toujours un petit peu, si c'est vraiment évident, bon, on considérera quand même qu'il n'y a pas de moyen sérieux, alors même qu'il pourrait y en avoir. Donc il y a un peu de là, vous voyez, dans ce rôle de filtrage, c'est aussi, il y a aussi une part de politique jurisprudentielle. Hein, de part de jurisprudentielle voilà. Mais c'est vraiment en général que pour des irrégularités externes, hein, que pour des irrégularités externes de l'arrêt, qui semblent, sur le fond, incontestables et souvent d'ailleurs pas contestées. Hein, voilà. Donc, c'est pas la peine non plus de faire perdre du temps et de l'argent aux justiciables. Et au juge. Et puis, sinon, voilà, donc, s'il y a un moyen sérieux, l'admission sera prononcée. Alors, deuxième question ensuite, c'est l'exercice donc du contrôle de cassation. Alors là, je voulais juste faire quelques focus, hein, peut-être sur des points qui peuvent être un peu différents avec la Cour de cassation, et notamment. Deux questions sur le contrôle de la régularité un petit peu externe des arrêts de cours d'instance d'appel, et notamment la question de la motivation, hein, parce que c'est souvent des moyens qui reviennent très fréquemment. Hein, les requérants devant nous viennent toujours dire que ce n'est pas suffisamment motivé, alors motivation au sens large, c'est-à-dire à la fois l'expression des motifs, la justification, en fait et en droit de la solution, de la réponse aux moyens, mais aussi la réponse, le fait d'avoir bien répondu à tous les moyens. Devant les juges du fond, comme on dit, devant les tribunaux administratifs et les conseils d'appel, bon, les écritures sont souvent très prolifiques. Hein, très... Voilà, alors après, c'est assez facile de venir devant le juge de cassation et de dire « Oui, mais voilà, attention, la cour d'appel, le juge du tribunal administratif n'a pas répondu à ce moyen-là en page 53 de mon cinquième mémoire en réplique. Bon. » Voilà. Donc là, vous voyez, le juge de cassation va avoir une approche très pragmatique aussi des choses, hein, en adaptant la réponse que doit avoir le juge du fond par rapport aux moyens, d'abord seulement les vrais moyens, hein, et non pas les arguments. Ça aussi, il y a souvent une tendance des requérants à vouloir faire de leurs arguments des moyens. Donc on se concentre sur les moyens, c'est cela seul auquel le juge doit répondre, et on laisse quand même au juge du fond une large marge d'appréciation de la qualification juridique des moyens et de son choix d'y apporter une réponse adaptée à l'argumentation qu'il avait devant lui. Autrement, pour le dire autrement, Il faut vraiment qu'il y ait un moyen qui soit vraiment voilà, assez clairement, soulevé, et il n'y a aucune réponse pour que ce défaut de réponse à moyen soit censuré. Sur l'explication la motivation proprement dite, hein, l'explication des solutions, bon, là aussi, hein, le juge de cassation vérifie seulement que le requérant comprenne pourquoi son moyen a été écarté et que le juge du fond a mis à même le juge de cassation d'exercer son contrôle. Hein, c'est un petit peu les deux objectifs de la motivation. Les censures, les cassations pour des irrégularités externes de ce type, hein, défaut de motivation, sont quand même très rares. Hein, très rares, ouais. Heureusement, d'abord parce que, comme il a été dit tout à l'heure, les cours administratives d'appel le motivent bien, et les tribunaux aussi, et que voilà, qu'ensuite l'exigence n'est pas non plus est adaptée encore une fois aux arguments, au développement des mémoires. Autre question qui me semble intéressante dans l'office du juge, un petit peu de contrôle de cassation, c'est la question des faits, justement. C'est la question du contrôle des faits en cassation. Alors, ça, c'est vraiment intéressant de comparer, je trouve, avec la Cour de cassation, parce que le Conseil d'État, même dans son rôle de son office de juge de cassation, contrôle un petit peu plus que la Cour de cassation, hein, les faits du litige. Il le fait à travers un contrôle de la qualification juridique des faits, qui est encore un contrôle assez étendu, c'est-à-dire qu'il va non seulement contrôler l'erreur de droit pure, mais aussi l'application de la règle de droit au fait de l'espèce. Là, on est vraiment dans un domaine de c'est très difficile à synthétiser, hein, à dire dans quel cas il le fait, dans quel cas il ne le fait pas. C'est vraiment une forme de politique jurisprudentielle. On peut donner quelques exemples. Hein, par exemple, le Conseil d'État contrôle la qualification de faute disciplinaire, de faute lourde ou de faute simple, de fraude, de dol, de caractère de dommage anormal et spécial, la force majeure. Voilà. En revanche, il ne contrôle pas, par exemple, le fait que l'appréciation portée par une juridiction du fond sur l'entretien normal de l'ouvrage public. Hein, oui, donc bon, sur le caractère direct et certain, sur l'existence du lien de causalité, ça c'est pas contrôlé. En revanche, si la juridiction retient le lien de causalité souverainement, l'appréciation de son caractère direct et certain sera contrôlée. Et donc, parfois, il y a sur des mêmes litiges et des mêmes sujets, il y a des nuances de contrôle qui sont assez subtiles. En matière de responsabilité contractuelle aussi, on peut dire que le Conseil d'État ne contrôlera pas l'interprétation donnée par les juges du fond des documents contractuels, du contrat. C'est la chose des parties et il ne contrôle pas. Bon, alors on pourrait donner beaucoup d'exemples. Disons que l'idée, c'est que plus c'est factuel, moins le juge va le contrôler. C'est-à-dire qu'il va le laisser à l'appréciation dite souveraine des juges du fond. Donc tout ce qui est appréciation purement quantitative, tout ce qui est valeur des preuves, tout ce qui est intention des parties, tout ce qui est notion, même en excès de pouvoir, notion légale qui utilise des adjectifs un petit peu généraux, genre principal, normal, temps utile, voilà. Bon, tout ce type de notions-là, a priori, le Conseil d'État ne les contrôle pas. Hein, l'aptitude physique à un emploi, voilà, de ce type de choses. Même l'urgence en référé, hein, on ne la contrôle pas. Voilà. Mais après, encore une fois, c'est variable et on ne peut pas poser de règle générale parce que ça va aussi dépendre, par exemple, quand il y a une législation nouvelle et que le Conseil d'État souhaite, par des qualifications juridiques, poser vraiment le cadre juridique pour les juges du fond, il va contrôler au début, ensuite... Il arrêtera de contrôler, donc il renoncera à cette qualification juridique des faits. Ça peut être le cas aussi lorsqu'il y a des notions, même un peu vagues, mais qui déterminent l'application d'un régime juridique, notamment d'un régime de liberté fondamentale. Dans ce cas-là, il y aura aussi une tendance plutôt à contrôler. Par exemple, le Conseil d'État contrôle en cassation la qualification juridique des faits de l'atteinte portée par une mesure d'éloignement d'un étranger au respect de son droit de manie familiale et privée normale au titre de l'article 8 de la CEDH. Alors que c'est purement factuel. C'est purement factuel. Alors même que lorsque la même question est posée, mais à travers non plus l'article 8 de la CEDH, mais l'erreur manifeste d'appréciation des effets de la mesure sur la vie personnelle de l'intéressé, là, c'est l'erreur manifeste d'appréciation, c'est un contrôle de l'erreur manifeste d'appréciation par les juges du fond, et le Conseil d'État, lui, ne contrôle pas. En général, il ne contrôle pas les appréciations des juges du fond sur l'erreur manifeste d'appréciation qu'ont pu commettre les administrations. Donc, vous voyez, on a un contrôle évidemment différent, alors même que c'est vraiment le même contenu. Hein, en réalité, les deux se suivent et c'est rare qu'il y ait une divergence. Alors qu'il y a une différence de contrôle de cassation. Lorsque le juge de cassation ne contrôle pas la qualification juridique des faits, il va contrôler, il y a quand même au moins un petit garde-fou, c'est ce qu'on appelle la dénaturation. Là aussi, je crois que la Cour de cassation ne le fait pas. Le Conseil d'État va quand même contrôler les faits, à la fois au titre donc, de la dénaturation et de l'exactitude matérielle des faits. Donc, c'est ces deux notions qui sont quand même assez proches. L'exactitude matérielle des faits, c'est dans le cas où il apparaît que le juge d'appel ou le tribunal s'est vraiment objectivement trompé sur un fait. La dénaturation, c'est plutôt une erreur de qualification juridique des faits qui est tellement importante, tellement énorme, tellement grossière, tellement évidente, qu'alors même que le juge normalement ne la contrôle pas, là, il va la contrôler. Voilà, c'est la limite. Mais ça montre tout ça quand même que le juge de cassation, le Conseil d'État, dans son contrôle de cassation, garde quand même un regard sur les faits. Il n'est pas direct, il est un peu oblique, mais enfin, il est quand même assez présent et il dispose, lui, du dossier de fond. Il en a besoin, il l'a toujours. Alors, sur le contrôle de cassation de l'office du juge d'appel, je ne vais pas développer, c'est un peu technique, mais c'est, par exemple, on peut voir que le Conseil d'État peut avoir à contrôler, évidemment, le choix du juge d'appel entre l'effet dévolutif et l'évocation. L'effet dévolutif et l'évocation. Mais là encore, il a une approche pragmatique. Bon, je ne rentre pas dans le détail. Vous savez que l'évocation, c'est lorsque le jugement et lorsque le juge de cassation va statuer sur des conclusions qui n'ont jamais été présentées au juge du fond, ou sur lesquels le juge du fond a statué, et ça c'est le propre Conseil d'État, je crois que c'est le Cour de cassation ne le fait pas, mais lorsque son jugement ou l'arrêt a été annulé pour une irrégularité, et donc il est censé n'avoir jamais existé. Donc là c'est une fiction juridique. Dans ce cas-là, le juge d'appel, se retrouve devoir juger, statuer par la voie de l'évocation, et donc il a plus de pouvoir que le juge d'appel, il est ressaisi de l'entier litige tel qu'il était présenté au juge de première instance. Les parties peuvent aussi régulariser. Voilà. Lorsque le juge d'appel se trompe son office et statue par la voie de l'effet dévolutif alors qu'il aurait dû statuer par la voie de l'évocation ou l'inverse. Bon, bien sûr, c'est une irrégularité et le Conseil d'État, le juge de cassation, va le censurer. Mais ça ne va pas toujours aboutir à une annulation de l'arrêt. Notamment, je voulais citer un exemple intéressant. C'est un arrêt du Conseil d'État du 19 avril 2013, société LRS, où vous avez une cour d'appel, cour administrative d'appel, qui, alors même qu'elle n'a pas censuré les jugements pour irrégularité, alors même qu'elle était saisie d'un jugement avant-dire droit et d'un jugement au fond, les deux avaient eu lieu, elle était saisie des deux. Donc on n'est pas dans le cas où le juge d'appel, après avoir annulé un jugement au fond avant-dire droit, se retrouve, se saisit lui-même du fond, ce qui est le cas d'évocation classique. Là donc, elle était en situation de... Elle aurait dû statuer par la voie de l'effet dévolutif. Mais elle a statué... s'est trompé et l'a statué par la voie de l'évocation. Donc j'ai trompé. Mais évidemment, cet office-là, cette erreur, n'a eu aucune incidence sur le traitement du litige. Ça n'a pas privé les parties de la possibilité de soulever des moyens qu'elles n'auraient pas pu soulever. Au contraire, il y avait plus de moyens, il y avait plus de possibilités qu'en effet dévolutif. Et surtout, ça n'a pas, en l'occurrence, le juge d'appel n'a pas utiliser des pouvoirs qu'il n'avait pas en effet dévolutif ou l'aurait dû être. Et donc le Conseil d'État a dit, certes, il y a une erreur de droit de la part de la Cour d'appel, mais c'est sans incidence, donc pas de cassation. Voilà. Deuxième partie, la question que je vais évoquer rapidement, donc, du Conseil d'État juge d'appel, où il se retrouve donc juge d'appel après avoir cassé. Alors, là, c'est la question de savoir comment il va exercer cette possibilité que lui est donnée depuis le début par le Code de justice administrative de régler l'affaire au fond dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice. Alors, Maître Hazan a déjà évoqué un petit peu les critères. Il y en a effectivement, on peut dire, trois. Lorsque l'affaire est très ancienne, pour ne pas se retrouver en situation d'avoir un délai de jugement déraisonnable, hein, parce que vous savez que le délai raisonnable, il prend l'ensemble de la procédure de la première instance jusqu'à l'exécution complète de décision de justice. Donc pour ne pas être en manquement par rapport à ces obligations de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et l'obligation de délai raisonnable, il va régler l'affaire au fond. Lorsque le règlement de l'affaire au fond s'impose avec évidence, hein, il n'y a plus rien à juger, alors ça c'est évidemment le cas lorsque il y a une recevabilité ou autre, mais même lorsque les faits sont établis, ça sera très facile de juger au fond. Donc là encore, ce n'est pas la peine de faire perdre du temps et de l'argent aux parties. Et puis le cas un peu plus de politique jurisprudentielle, c'était ce qui s'est passé à un moment. C'est-à-dire qu'on sait qu'au début, quand le Conseil d'État, après l'entrée en fonction des conseils d'appel, au début, le principe, c'était plutôt le renvoi, assez systématique. Et puis il y a eu une période où les cours administratifs d'appel se sont trouvés avec des stocks importants. Et donc là, le Conseil d'État a repris a réglé au fond pour éviter d'alourdir les stocks déjà existants des cours administratifs d'appel. Aujourd'hui, comme il a été dit, les cours administratifs d'appel étant dans les jugements devant les cours étant tout à fait satisfaisants, le Conseil d'État, le principe, c'est le renvoi. C'est le renvoi. Et on ne le fera pas, outre les cas que je viens de dire, lorsqu'il y a parfois un intérêt jurisprudentiel à traiter au fond. C'est-à-dire quand le Conseil d'État pose une règle nouvelle, par exemple, une nouvelle jurisprudence, ça peut être intéressant de la régler au fond, pour montrer comment il en fait application concrètement au fait de l'espèce. Donc ça, c'est vraiment du cas par cas, du cas d'espèce. Voilà. Et il faut en général que l'affaire aussi soit en l'état, hein, c'est-à-dire... Alors une différence, c'est ça que ça peut être... Bon, aujourd'hui, qu'on renvoie plus systématiquement, c'est moins important, mais à l'époque où on renvoyait beaucoup, devant le Conseil d'État, effectivement, les parties ne sont pas informées à l'avance de ce que va faire le Conseil d'État après cassation. Hein. D'abord, ils ne savent pas à l'avance si le Conseil d'État va casser ou pas, et on ne l'informe pas, les parties. Au cas où le Conseil d'État casserait, il a décidé de renvoyer au fond. Donc les parties doivent se préparer à cette éventualité. Bon, en général, les avocats le font en se renvoyant à leur dossier d'appel. Voilà. Donc des points communs, des différences. Je crois que c'est surtout la grosse différence, c'est probablement la place des faits, de l'appréciation des faits dans l'office du juge de cassation. Sur l'influence du contrôle de cassation sur le juge d'appel, qui est aussi et le juge du fond plus généralement, qui est aussi un point important. Il a déjà été abordé par Maître Hazan, par l'intervention précédente. Je n'ai pas grand-chose à ajouter. Hein. C'est vrai que dans la juridiction administrative, il y a une discipline jurisprudentielle beaucoup plus importante que devant la Cour de cassation. Hein, les juridictions du fond respectent a priori les décisions, la jurisprudence du Conseil d'État, et c'est un petit peu quand même le rôle de la Cour de cassation de justement d'unifier la jurisprudence. Donc si ce n'était pas respecté, on se demande bien à quoi ça servirait, hein, effectivement. Voilà, je vous remercie.
Bien, merci infiniment. Alors, peut-être quelques questions rapides, très rapides, s'il y en a. Oui, voilà. Oui, tout le monde est un peu... par cette intense réflexion de la journée. Voilà. Bah, écoutez, il ne reste plus qu'à louer les organisateurs pour nous avoir permis d'écouter tout cela et puis de remercier tout le monde, les intervenants et les participants. Merci beaucoup.